Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est aujourd'hui un épisode qui va nous faire voyager. Un épisode qui va nous faire voyager en famille pour ce podcast France Télévisions. On a envie de faire un voyage, mais un voyage initiatique. Et oui, qui n'a jamais rêvé de partir avec ses enfants pendant un mois, deux mois, six mois, un an, faire un grand voyage, un grand trip, un grand road trip? Eh bien, nous allons entendre Céline. Céline, c'est exactement ce qu'elle a fait, un voyage initiatique. C'est dur à dire, hein. Alors imaginez à faire. Un voyage initiatique avec ses enfants. Elle va donc nous raconter ça sans bafouiller. Elle, vous allez l'entendre. Et puis nous serons avec le professeur Marie-Rose Moreau qui livrera son analyse. C'est pas qu'une simple balade à faire avec ses gosses. Vous allez l'entendre, c'est parti.
Alors, traverser trois pays, parcourir exactement 1520 km pendant 65 jours de marche. Voilà l'incroyable défi que vous vous êtes lancé, Céline, avec votre fils Leandro l'an dernier. Il n'avait que 7 ans. Vous racontez cette extraordinaire odyssée dans un livre qui s'appelle « Ciao Pellegrino », qui est paru aux éditions Guy Trédaniel. Pour vous, ce n'était pas une première, parce que vous aviez déjà arpenté le chemin de Compostelle avec votre fils aîné. Il s'appelle Santiago, il avait 7 ans à l'époque aussi. Merci de venir nous parler de ce voyage mère-fils qui, on va le voir, permet à chacun de se dépasser en fait et puis de découvrir des choses de soi et puis de l'autre. Alors, je vais vous présenter Céline. D'abord, vous avez 45 ans, vous élevez seul vos deux enfants, donc Santiago qui a 15 ans, Leandro qui a 8 ans. Ils sont nés de deux pères différents, je fais tout votre CV. Vous êtes photographe et autrice. Ouais. Vous avez découvert le chemin de Compostelle à 26 ans par hasard, vous l'avez emprunté d'ailleurs plusieurs fois. Non pour des raisons religieuses, parce que vous n'êtes pas croyante, je le précise, mais pour l'expérience d'introspection qu'il permet. D'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, il y a plein de gens qui font Compostelle dans le même état d'esprit. Mais alors, qu'est-ce qui vous a poussé à le reproduire avec votre fils à l'époque qui avait 7 ans?
Eh bien,
parce qu'on se dit que c'est un truc d'adulte quand même, a priori.
Oui. Ah non, mais c'était pas un rêve pour moi d'emmener mes enfants. Mais mère célibataire avec Santiago, quelques jours avant la rentrée, il ne voulait pas enlever la tétine, ni les couches, ni rien. Donc, moi qui suis photographe et qui ai voyagé de par le monde et qui, par mes origines péruviennes, je suis très rituelle, parce que j'ai vécu 20 ans au Pérou. Je me suis dit, on va le faire sous forme de jeu. Et donc, j'ai dit à Santiago, pour l'instant, tu es un bébé. Donc, le jour où tu voudrais être un petit garçon, par toi-même, tu iras jeter la tétine et tu décideras de ne pas, pas utiliser de couche. Et donc, du coup, quelques jours après, il vient me voir. Un jour, avant rentrer, il me dit, ça y est, maman, je ne suis plus un bébé, je suis un petit garçon. Et il jette tout à la poubelle et c'est terminé.
Donc, c'est lui qui a décidé. C'est marrant.
Voilà. Alors, pour rebondir sur ce que disait le monsieur d'avant, c'est que ce que j'ai su des années après, c'est que chez mamie et papy, ils remettaient la tétine.
Ah oui, ça. Oui, évidemment. Ça.
Et donc, du coup, je me suis dit, l'histoire des rituels, c'est quand même pas mal. Donc, j'ai dit à Santiago, quand tu auras 7-8 ans à peu près, il n'y a pas d'âge, tu vas passer une épreuve pour laquelle tu vas te dépasser physiquement, spirituellement. Et la première épreuve, ce sera de décider toi-même qu'est-ce que tu veux faire. Jamais j'aurais imaginé qu'il aurait choisi Compostelle, mais quand il était petit,
c'est lui qui a choisi.
Voilà, en fait,
c'est ça qui est fou.
Oui, parce qu'en fait, il s'appelle Santiago. Mm-hmm. Alors c'est pas moi qui ai choisi son nom, c'est son père. Mais quand j'allais sur le chemin, lui, il allait chez ses grands-parents, et en fait, en Espagne, il disait toujours :« Maman, marche sur mon chemin. » Et un jour, à 10 heures du soir, il me dit :« Maman, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux aller marcher sur le chemin de Compostelle. » Moi, jamais j'aurais imaginé ça.
Donc, parce que Santiago, la traduction, c'est
Saint-Jacques.
C'est Saint-Jacques, donc voilà. C'est pour ça qu'il avait fait le lien, qu'on comprenne.
Exactement. Et donc, du coup, moi, j'ai dit, bon, comme son père est espagnol, j'ai dit, on va partir une semaine avant les Pyrénées, on fait le passage des Pyrénées, on va en Espagne, ça fait le passage de la mère au père. Donc, c'est très symbolique, c'est parfait, c'est un rituel. Et j'ai dit, yalla, on y va, quoi. Mais en fait, une semaine avant de partir, il m'a dit « Non, mais maman, t'as pas compris, je veux pas marcher une semaine, je veux aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. » Et moi, j'élève mes enfants avec deux maximes, c'est « Difficile n'est pas impossible. » Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Donc pour moi, c'était impossible de lui dire « Non, je lui dis, écoute, on met un pied devant l'autre et on y va. » Et deux jours avant de partir, il me dit, maman, 700 km, c'est nul pour un passage de petit homme. Il faut que je fasse au moins 1000 km. Je lui dis, bah, écoute,
allez, yalla.
Yalla, on y va. Et on est parti de Nogaro. Et 43 jours après, on est arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Incroyable. Qu'est-ce que vous avez tiré cette première expérience? Comment ça s'est passé?
Ça a été. Alors, j'avais très, très peur. Santiago, quand il était petit, il a eu deux fois une pneumonie, dont une fois où j'ai failli vraiment le perdre. Mm-hmm. C'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée. Donc, sur ce premier voyage, j'avais mon sac à dos et le trois quarts de mon sac à dos était
des médicaments.
Or, bon, c'est une aventure quand même, on reste quand même en Europe, mais bon, quand même. Et ce que j'ai retiré, c'est déjà, c'est de comprendre que mon enfant était une personne à part entière, vraiment. Et sur le chemin... C'est plus mon fils, c'est un compagnon de voyage. Et donc, du coup, l'idée de ce rituel, c'était aussi de prendre le temps de voir quels étaient ces... Parce que nous, en tant qu'adultes, on a quand même beau... On a nos sacs à dos, mais on a le dos un peu lourd de ce qu'on a à régler.
Bien sûr.
Et l'idée, c'était de l'aider dès son enfance à savoir comment il peut passer des choses qui le dérangent. Par exemple, il était très, très timide. Et sur le chemin, on a travaillé la timidité. Il avait un problème avec la mort. Alors, dès qu'il avait une grippe, il allait mourir. D'ailleurs, il m'a fait la varicelle sur le chemin. Et alors, il y a un médecin...
Ça devait être sympa, ça.
Ah, ouais, mais il y a un médecin allemand, dont je ne comprenais absolument rien ce qu'il disait, qui l'a regardé, il m'a dit, c'est la varicelle, il peut continuer à marcher. Et donc, on a travaillé sur la mort. Et par exemple, Santiago ne pouvait pas voir un animal mort. Donc, la première fois, il y avait un petit oiseau mort par terre. Et il m'a dit, normalement, photographie-le, comme ça, je peux le regarder. Donc, j'ai fait la photo, il a regardé. Après, on est arrivé dans les Pyrénées, on a vu un bélier qui était complètement déchiqueté, qui était mangé par des carnassiers. Et là, il l'a regardé. Et quand on est arrivé vers Compostelle, il y a une cigogne qui a dû se faire frapper par une voiture. Ouais. Et donc, du coup, on l'appelait Plume d'œuf. Enfin, les pèlerins l'appelaient Plume d'œuf. Et donc, il a été prendre une plume qu'il a mise sur son bâton. Et donc, on a travaillé autour de la mort. Donc,
tous ces empêchements d'enfant, vous avez pu faire finalement une pause,
c'est ça.
Ce qui est un cadeau inouï pour pouvoir dépasser tout ça et effectivement, comme vous le disiez, symboliquement passer de la vie de petit garçon à petit homme.
À petit homme, c'est ça.
C'est génial. Pour Leandro, votre deuxième fils, nouveau défi, la Via Francigena, j'ai bien prononcé. C'est une grande voie de pèlerinage médiéval ralliant Canterbury en Angleterre à Rome. C'est extraordinaire, vous passez par la France, par la Suisse. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce chemin?
Alors, Leandro, la particularité avec Leandro, c'est qu'il y a eu le confinement. Donc, avec Santiago, on s'est entraîné pendant 6 mois. 6 mois, tous les week-ends, quand Santiago est parti sur le chemin de Compostelle, il faisait déjà 15-18 km sans problème. Leandro voulait faire le chemin de Shikoku au Japon, qui est un autre chemin. Mais bon, confinement, Covid, impossible. Et moi, j'essaye que dans ma vie et dans la vie des enfants, je leur apprends que quand on fait des choses qui ont un sens, ça roule tout seul. Si on fait des choses qui n'ont pas de sens. Et donc, du coup, je cherchais un chemin. Ce qui était clair, c'est qu'il fallait marcher parce que quand même, la marche, ça nous met dans un état méditatif. Et comme vous l'avez dit, j'ai deux enfants avec deux pères différents. Le père de Leandro est d'origine italienne. Donc, je lui ai dit, écoute, on va
sur le chemin de tes racines.
Voilà, c'est ça, on retourne aux racines, savoir d'où on vient pour aller, pour savoir où on va, quoi.
Ah, c'est formidable.
Et donc, du coup, je lui ai dit, tu vas aller au pays de ta grand-mère qui s'appelle Franca. Et alors là, ça a tout de suite fit tilt.
Elle lui a parlé. Vous faisiez combien de kilomètres par jour?
Alors, en moyenne, entre 20 et 25, mais ça nous est arrivé de faire presque 40 kilomètres. Parce que, ouais.
Alors, mais il ne se plaignait pas, il a tenu le coup, il n'était pas découragé?
Alors, Santiago est un grand marcheur. Leandro se plaint toujours de tout. Voilà. C'était sa seconde nature. Mais il n'a jamais voulu arrêter ni rien parce que ce qui est important, c'est pas autant la destination, mais c'est de devenir un petit homme. Et il a baigné en fait dans toutes nos aventures. Moi, j'ai grandi au Pérou. Et c'était ça mon urgence aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi. Ma famille vient des Andes. J'ai vécu dans les Andes, dans la jungle.
Et justement, alors vous étiez souvent tout seul, vous n'avez pas eu la frousse de temps en temps?
Vous
êtes tapé des flips?
Des bons flips.
Quoi, par exemple,
les 3 semaines en France, on était complètement seuls. Et dans le Jura, on était dans des forêts de sapins noirs. Et en fait, c'est des sapins qui sont immenses. On voit à peine le ciel. Et avec le confinement, il n'y avait pas eu d'élagage ni rien. Donc des fois, on devait passer des... Enfin, j'avais l'impression d'être dans la jungle au Pérou. Quoi.
Oh là là.
Et Leandro, il s'est mis en tête que son animal totem, c'était le loup. Et donc, il passait son temps à crier comme un loup, jusqu'à un jour, un loup nous a répondu, quoi.
Ah, c'est ça, donc il plaisantait en faisant le cri du loup.
Oui, bien sûr.
Et un jour, le loup lui répond. Bon, voilà,
ah c'est... non, mais alors, c'était horrible.
Oh,
c'était horrible parce qu'on était en pleine forêt. Et puis, je ne parle pas des hardes de sangliers, des hardes de comment ça s'appelle, de cerfs, de tout. Et puis, bien entendu, au lieu de parler ça le soir au gîte, il parlait tout le temps des animaux et de la mort et tout ça. Dans la brume, et je me disais... Alors, et puis lui, il est avec sa maman. Donc sa maman, elle est toute puissante.
Oui, c'est ça, mais vous,
et moi, j'étais
il n'y a personne pour vous protéger.
C'est ça. Mais qu'est-ce c'est une super aventure.
Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça lui aura appris, alors? Aujourd'hui, vous vous dites, qu'est-ce que ça a changé? Déjà, dans votre rapport avec vos enfants...
Alors, ce que ça a changé, de rapport avec mes enfants, c'est qu'ils savent ce que c'est les étapes de vie. C'est-à-dire que moi, je leur apprends que chaque jour est une étape d'un chemin de pèlerinage. Et donc, chaque jour, quand on se réveille, eh ben, comme dans une étape, on a le soleil qui se lève, on a la brume, on a des belles choses, on a mal aux pieds. Et donc, du coup, ça nous... Et le soir, on va se coucher, et le lendemain, ben, on se réveille, c'est pareil. Et ça leur a appris que leur maman, elle est comme eux. C'est-à-dire que chaque jour qui arrive, c'est une nouvelle jour où j'apprends. Et donc, la seule différence entre eux et moi, c'est que je suis à quelques étapes devant eux. Mais chaque jour, j'apprends à être maman. Chaque jour, j'apprends ce que c'est d'avoir des enfants. Et donc, ça, ils le visualisent.
Ils l'ont bien intégré.
Et puis, Léandro, ça lui a appris. Depuis qu'il est né, Léandro, il dit tout le temps, c'est pas juste. C'est pas juste. Rien n'est juste. Et donc, je lui dis, mais si pour toi, une situation dans laquelle tu vis n'est pas juste, c'est que tu n'acceptes pas les preuves que te donne la vie. Et donc, tu ne peux pas acquérir les enseignements que tu as à apprendre. Et donc, un jour, on était dans la montagne. Et j'en avais marre de c'est pas juste, c'est pas juste. Donc je lui ai fait crier son c'est pas juste jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer.
C'est à ce que les loups répondent.
Voilà, et il a commencé à crier. On était dans le Jura, il criait, c'est pas juste. Et une fois, il s'est mis à pleurer très très fort, mais comme quelque chose qui le pesait. Et donc après, je lui ai dit maintenant, tu vas crier, j'ai de la chance. Et donc il a commencé à crier, j'ai de la chance. Et je lui ai dit pendant tout le chemin, à chaque fois que tu vas dire c'est pas juste, tu vas dire j'ai de la chance. Et
il l'a fait.
Et il l'a fait. Et depuis, plus jamais. Il n'a dit, c'est pas juste.
Alors, je vous le dis, on est particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui le professeur Marie-Rose Moreau. Bonjour, professeur. Merci vraiment d'être là. Vous êtes psychiatre pour enfants et adolescents. Vous êtes spécialiste d'ethnopsychiatrie. Et vous dirigez la fameuse Maison de Solène, la Maison des adolescents de Paris, qui aide tant d'enfants, d'adolescents. Alors, dans nos sociétés contemporaines, il y a de moins en moins de rites de passage. C'est vrai, hein, parce que moi, j'entendais parler de ça, je me disais, tiens, finalement, quand même, peut-être qu'il faudrait les réintégrer dans mon éducation, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce rite de passage de petit homme que Céline a mis en place avec ses fils? Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à un enfant? Est-ce que c'est important?
Alors, oui, c'est important. C'est un rite... qu'elle a inventé, Céline, avec bonheur, j'allais dire, parce que ça mélange plein de choses différentes. Ce n'est pas tout à fait un rite initiatique au sens, les rites initiatiques sont collectifs, c'est-à-dire tout le monde au même âge passe par...
C'est ça.
Mais c'est vraiment un acte, un défi et un acte fort qu'ils ont construit ensemble, hein, parce qu'on comprend bien que les enfants, ils ont été très actifs dans la création, de choisir le chemin, de choisir les manières de dépasser les épreuves. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui leur a été imposé comme ça.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux qui ont été en demande.
Ils ont... Alors,
bon, enfin, évidemment, c'était initié par la maman.
Mais... Voilà, c'était initié par la maman. C'est un acte parental assez fort. C'est un acte relationnel, c'est un acte physique aussi, bien sûr, puisqu'il faut apprendre à marcher, à dépasser la douleur, les inquiétudes. Mais c'est aussi un acte relationnel. On passe beaucoup de temps ensemble et on invente des manières de faire. Donc, il y a vraiment un côté invention parentale tout à fait génial. Et avec ça, on construit ensuite une manière d'être enfant et parent. Et l'idée, ce n'est pas que chacun fasse de la même façon, puisque ça ne serait pas
bien
adapté
sûr
à tous les enfants, ça ne serait pas non plus adapté
à
tous les parents.
Il faut créer sa propre histoire, bien sûr.
Il faut créer sa propre histoire, son propre récit. Ouais.
Alors, on a reçu une question, enfin un témoignage et une question en vidéo d'Audrey. Regardez.
Bonjour à tous, c'est Audrey de la famille Global Change. On a fait un tour du monde en 2016-2017 avec nos trois enfants. On est revenu avec un petit quatrième dans le sac à dos. Et on repart dans quelques mois faire un grand voyage en Amérique centrale, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Et on envisage à notre retour l'expatriation. Donc si vous avez des petites clés pour nous aider à mieux l'appréhender, à mieux vivre, et ben on est preneurs. Merci beaucoup.
Des clés,
voilà.
Alors,
sachant que l'expatriation, c'est encore une autre démarche, j'imagine.
Voilà, j'allais dire, c'est une autre démarche. Et en même temps, elle a raison que ça se prépare. Et les enfants, en fonction de l'âge à laquelle on s'expatrie, c'est pas du tout pareil. Par exemple, changer avec un tout petit dans son sac à dos,
eh
ben, faut lui dire quand même qu'il y a des choses du quotidien, parce qu'ils sont très sensibles, les tout petits, aux modifications concrètes. Donc, ben voilà, il va peut-être, il fera plus chaud, il fera plus froid, il sortira beaucoup plus, il aura une nounou. Bref, il y a des choses qui vont changer.
La nourriture sera différente.
La nourriture sera un petit peu différente. La langue, c'est très important, la question de la langue. Donc, et les enfants sont très sensibles, les tout petits, en dessous de 3 ans, ils sont très sensibles.
Donc, on les prépare.
On les prépare et on leur fait envie, en fait, on leur dit, bah, tu vas entendre une langue totalement différente, ou alors tu vas manger des choses que tu connais pas, qui seront, il y aura du paprika dedans. Et tu as de la chance, tu vas découvrir des choses que moi j'ai découvert très tard, etc. Donc ça, il faut les prévenir, les petits, mais il faut les prévenir essentiellement de la question concrète et les rassurer en leur disant, nous on sera là et on va tous faire ce mouvement ensemble. Après, les enfants d'âge scolaire, c'est ceux, à mon avis, pour lesquels c'est plus facile. Bien sûr, il faut aussi qu'ils sachent qu'ils vont changer d'école, de copains, de manière de vivre. Bon. Mais c'est à cet âge-là, si les enfants ont l'organisation de leur vie, de leur quotidien, et puis qu'ils peuvent envisager des nouvelles choses, ça va. Les adolescents, ça se corse. Hein. Les adolescents, j'allais dire...
À tous les niveaux, ça se corse. Hein,
ça se corse à tous les niveaux, mais souvent, ils en veulent à leurs parents de ne pas se rendre compte que la vie, leur vie, une grande part de leur vie, ce n'est pas leurs parents, ce n'est pas la belle maison qu'ils vont avoir, c'est le monde qu'ils sont en train de construire ici.
Oui, donc là, c'est un peu plus compliqué.
C'est
on va en reparler des ados. Béatrice, par exemple, j'ai le sentiment que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violents. Alors elle vous demande pourquoi. Est-ce parce que nos sociétés sont moins ritualisées? Par exemple, plus de service militaire obligatoire? J'aime bien cette question toute douce pour vous poser la question en fait, du service militaire.
Alors, objectivement, les études sociologiques, par exemple, ne montrent pas d'augmentation de la violence des jeunes. La question de la violence des jeunes, dans les études, on la retrouve depuis, après la Deuxième Guerre mondiale, la question est apparue. Elle existe individuellement, elle existe en bande, à certains moments, dans des organisations comme ça, collectives, mais pas plus.
C'est toujours la question de la sécurité et du sentiment d'insécurité. C'est la même chose avec la jeunesse qui n'est pas plus violente qu'hier.
Puis c'est aussi la question de génération. C'est-à-dire que lorsque nous, on est soi-même jeune, on réagit d'une certaine façon, parfois un petit peu violente, mais comme tous les jeunes gens le font. Et puis, lorsqu'on devient ensuite adulte, eh bien, on regarde la violence de ceux qui nous suivent d'une manière comme si elle avait changé. En réalité, c'est vraiment stable.
Mmh. Le service militaire, ça, c'était un rite.
Oui, c'était par définition, c'était un rite qui n'existe plus en tant que tel, mais il y a d'autres rites partiels. Hein.
Service civique, par exemple, on peut le comparer?
Ça peut être comparé tout à fait pour une certaine catégorie, mais c'est par catégorie. Le baccalauréat aussi, par catégorie, mais même le permis de conduire, alors qu'il est en train de perdre, parce que la voiture se modifie aussi, mais on a des moments comme ça qui sont des rituels collectifs par lesquels on passe.
Ce sont des symboles d'autonomisation,
De séparation et d'autonomisation. Oui, tout à fait. Et où les jeunes adultes vont prendre leurs responsabilités vont agir par eux-mêmes.
Moi, je n'ai pas le permis, par exemple.
C'est pour ça que
ça voudrait dire que je n'avais pas envie de couper avec mes parents.
Non, ça ne veut pas dire ça. Mais le permis, comme je le disais, c'est en train de perdre aussi ce caractère général. Non, bien sûr que non. Parce qu'on peut trouver, on peut faire un grand voyage. C'est ce que j'ai fait moi. On peut faire des tas de choses différentes. Il n'y a pas un seul rituel. Mais même le service militaire, je vous rappelle que les filles n'y allaient pas. Hein, et que ce n'était pas un rituel collectif. Et ce n'était pas un rituel d'initiation pour tous. Mais c'est pour ceux, disons, qui allaient au service militaire, il y avait quelque chose comme ça d'un avant et d'un après. Et ça, c'est important. Mais c'est aussi vrai encore une fois, lorsqu'on fait un grand voyage ou lorsqu'on part travailler en Australie, cueillir les pommes, mais il s'est passé quelque chose, on est différent, parce qu'on a décidé par soi-même, on a organisé sa vie, on a fait des rencontres.
Ah oui, les vendanges, ouais, vous dites cueillir les pommes, les vendanges, quand j'étais ado, c'était un rite ouais, pour beaucoup.
Oui, c'est ça.
D'aller faire les vendanges en septembre.
Mais c'est aussi, c'était par petits groupes seulement, par
grâce à ça. Oui, et par petits groupes géographiques.
Ah, c'est
aussi,
ça, parce qu'à Paris, là, en Île-de-France, les vendanges, c'était pas...
Mais à Paris, on faisait souvent des voyages ou des choses comme ça. Ça prenait...
Alors, on a une autre question. Mon fils de 13 ans se décourage facilement par peur de ne pas y arriver, que ce soit pour les devoirs ou pour le sport. Comment lui apprendre à persévérer?
Alors, ça, c'est une question très importante. Et ça, c'est une vraie question sociétale également. C'est-à-dire, comment ça se fait que nos enfants, aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, en France, ont une telle estime d'eux-mêmes négative?
C'est
vraiment quelque chose de très global. C'est pas seulement l'enfant de madame.
Ok.
Et c'est parfois difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a pas eu, ils n'ont pas vécu d'événements traumatiques. Ils n'ont pas été délaissés. Ils n'ont pas vécu de choses graves. Et pourtant, ils ont une vision d'eux-mêmes tellement négative, tellement fausse aussi, parce qu'en général, c'est des enfants qui ont plein de compétences. Alors, la question qu'on peut se poser, puisque c'est si collectif, c'est si important, c'est pas seulement un enfant et un parent, c'est de se demander si, au fond, on attend tellement de nos enfants, nous, pas seulement parents, en société, à un moment donné, on attend tellement d'eux, on veut qu'ils soient bons à l'école, on veut qu'ils soient bons en sport, on veut qu'ils soient créatifs, on veut qu'ils aiment la nature, on veut qu'ils aiment marcher, etc.
C'est vrai, ouais,
et qu'au fond, c'est pas possible. Il y a une sorte d'attente. Alors, en fonction de leur personnalité et de ce qu'ils développent à un moment donné, parce qu'après, 10 ans plus tard, peut-être que... Mais à ce moment-là, donc, en fait, les enfants, ils ont le sentiment de nous décevoir. Et du coup, ils sont blessés, mais c'est une blessure qu'ils se font juste par rapport à nos attentes. Et nous-mêmes, on n'est pas tout à fait conscients de l'importance de ces attentes. Mais on n'a pas beaucoup d'enfants. Et puis, je crois qu'on s'en préoccupe beaucoup de nos enfants.
Donc,
et
pour les aider à persévérer, il faudrait baisser un peu notre niveau d'attente ?
Il faudrait en tous les cas ne pas attendre d'eux qu'ils soient capables de tout faire d'une manière idéale. Et donc, du coup, de leur permettre d'être actifs dans quelque chose. Mais peut-être que ce garçon, il sait très bien faire du roller. Et que le fait qu'il réussisse très bien à faire du roller, ça lui permettra d'imaginer aussi qu'il peut très bien réussir à aller sortir de sa chambre pour aller faire un autre défi sportif. Mais il y a vraiment quelque chose d'un... Moi, j'appelle ça l'amour déçu. C'est-à-dire qu'il perçoit, parce que les enfants, ils me le disent en consultation, ils disent, je vais te dire quelque chose, mais s'il te plaît, tu ne le dis pas à mes parents. Je pense vraiment qu'ils auraient préféré avoir un autre enfant. Ah oui. Oh. Et oui, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose, et c'est totalement pas objectif. Donc ça n'appartient pas seulement à cette relation-là. On parlait tout à l'heure de la difficulté d'être parent. C'est un exemple concret.
Donc faut les aider à trouver quelque chose qui va leur plaire. Même si nous, ça ne nous plaît pas forcément.
Je pense qu'il faut quand même sortir de la culture du défi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent faire des choses, bien sûr, mais il ne faut pas attendre qu'ils excellent, évidemment pas dans tout, mais même dans un des éléments qu'ils soient excellents. Simplement qu'on sait qu'ils sont capables et ils font ce qu'ils veulent.
D'ailleurs, c'est marrant ce que vous dites, parce que
de
plus en plus, à côté des terrains de foot, etc., il y a des panneaux pour prévenir les parents en disant c'est un jeu, on n'est pas en train de jouer de la vie de votre enfant, ne les engueulez pas, ça reste un sport, etc. C'est assez marrant. Maintenant, il y a les 10 commandements du parent qui regarde son enfant, et ça, c'est vachement bien.
C'est bien, mais ça montre aussi qu'au fond, c'est trop, quoi.
Bien sûr, c'est trop.
Pour les enfants, c'est trop.
Et puis, on les surcharge aussi. Je veux dire, on se dit, ah, tiens, ça serait pas mal de leur faire de la capoeira, parce que c'est original. Les arts martiaux, c'est super, le judo et le rugby, parce que c'est un sport, mais c'est fou ce qu'on entend.
Et le conservatoire, bien sûr.
Et le conservatoire, bien sûr, parce que c'est très bien d'apprendre le piano. Tu as fait ton solfège? Mais non, j'ai trop de devoirs. Bah oui, mais bah tant pis, du coup, je rappelle.
Est-ce que je peux jeter un lancer un pavé dans la mare, comme ça, comme dit?
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que l'éducation, comme on dit, non-genrée, peut devenir quelque chose qui rend les choses un peu compliquées pour les enfants? Je vous explique. Enfin, 2 secondes. Moi, je viens du Cameroun. Mm-hmm. Et J'ai été circoncis à l'âge de 7 ans. Mm-hmm. Et pour cette circoncision, ça veut dire que je m'en souviens, c'est pas tout bébé.
Oui,
donc c'est un moment très très important où les garçons se mettent
rituel,
ensemble.
Et c'est toujours à cet âge-là au Cameroun.
Oui, oui, enfin pour nous ça a été comme ça. Et on est enlevé de la famille, on va avec tous les garçons du même âge. Je me suis senti différent et ça, les images me sont restées. Et à ce moment-là, moi je jouais à la poupée. Et chacun fait ce qu'il veut, en fait. Il doit faire un truc pour le soir. Bref, moi, j'ai pris les habits de ma poupée, je les ai mis ensemble, et c'était ma création. Et d'autres faisaient autre chose. Et on se sentait différent. Dans ce moment de passage-là, où on est entre garçons, où on fait des choses particulières, et les filles avaient aussi d'autres choses que je ne connais pas. Peut-être que ça joue pour donner la confiance en soi, pour permettre de se sentir à cette notion d'appartenance, de passer à autre chose.
Alors, je dirais que au Cameroun ou dans d'autres pays, parce que il en existe plein des rituels comme ça, filles et garçons, ça fonctionne, mais ailleurs ça fonctionnerait pas. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit genré ou pas. Ce qui est important, par contre, et vous le décrivez très très bien, c'est que je sente que l'enfant là, qui n'arrive pas à aller sortir pour aller faire du rugby ou autre chose, il sent qu'il appartient à un groupe. Que ce groupe soit le groupe des garçons, le groupe des filles, le groupe mixte, à la limite, ce n'est pas important. Mais il faut qu'il ait le sentiment que tout ne dépend pas seulement de lui et qu'il est avec d'autres de son âge. Et effectivement, mais en France, en Europe aujourd'hui, c'est plutôt un groupe mixte. On peut faire des choses ensemble. Mais vraiment, ce sentiment d'appartenir à un groupe qui vous ressemble est très important. Et je crois que ça manque à nos enfants. C'est vrai, globalement, ça manque à nos enfants. De ne pas pouvoir... les groupes sont petits, changent. Dans l'expatriation, qui est une question qui est souvent posée, on perd son groupe.
Mais c'est pas le groupe famille.
C'est pas suffisant pour les enfants.
Surtout pour les ados.
Ça devient vite insuffisant. Mmh. On n'élève pas un enfant uniquement avec sa famille. Hein. Ça, c'est...
On l'a vu pendant le confinement.
Et pourtant, les familles, elles ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts.
Effectivement.
Et elles ont fait énormément
avec
d'efforts.
Avec des conséquences.
C'était presque infaisable, quoi, que les enfants soient heureux et puissent faire des choses différenciées dans des groupes différenciés. Parce que le problème pendant le confinement, c'était qu'on était parents, puis on faisait l'école, et puis on faisait aussi moniteur de sport.
Merci beaucoup, professeur Marie-Rose Moreau, qu'on adore recevoir dans la Maison des Maternelles, et merci à Céline pour son témoignage. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des Maternelles, un podcast France Télévisions, comme vous le savez. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des Maternelles. À demain tout le monde, ciao. We'll be right back.